podcast de Radio Vatican.
1 milliard de personnes dans le monde n'a pas accès à l'eau potable et 1 sur 3 n'a pas accès à des toilettes. Cette année, pour la Journée mondiale de l'eau, ce 22 mars, pour la première fois, l'ONU a choisi d'interpeller les consciences sur le thème de l'assainissement. La mauvaise gestion des eaux usées menace véritablement l'avenir de l'homme et de l'environnement, d'autant que c'est un sujet qui dépasse largement le clivage pays riche, pays pauvre. L'assainissement doit devenir une priorité des gouvernements. C'est ce qu'explique Thomas Van Weyenberghe, représentant d'Aquafed, la Fédération internationale des opérateurs privé de services d'eau. Il est venu à Rome participer à une conférence internationale au Vatican ce mercredi, organisée par le Conseil pontifical pour la culture en collaboration avec le Club de Rome et l'École supérieure de culture sociale et médiatique de Toruń en Pologne.
22 mars, Journée mondiale de l'eau, et je souligne, et de l'assainissement, parce que cette année-ci, nous sommes très fiers de pouvoir fêter la Journée de l'assainissement, et c'est la première fois depuis toute l'histoire de la Journée mondiale de l'eau que nous attachons une pensée particulière pour les défis liés à l'assainissement. Une conférence sur l'eau et l'assainissement à Rome, pourquoi ? Eh bien, bien entendu, parce qu'il ne faut pas simplement parler de la technocratie de l'eau et des instruments nécessaires pour les infrastructures, l'innovation, ou voire même les aspects techniques, mais il faut aussi avoir en tête les impacts de la morale, les questions et les valeurs éthiques qui se posent, et puis avant tout, consacrer énormément d'importance à la gouvernance de l'eau. Gouvernance de l'eau qui, d'un côté, doit réunir les États membres de l'ONU avec toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des villes, qu'il s'agisse des organisations non gouvernementales, qu'il s'agisse du secteur privé. Donc, le Vatican nous invite. Ce n'est pas la première fois que l'Église attache beaucoup d'importance pour l'eau. Ça fait part de la continuité de son intérêt pour l'eau, origine de la vie. Mais c'est la première fois qu'un dialogue tellement construit est organisé à Rome. Donc nous sommes très 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 contents de cette initiative qui s'insère dans une logique, je dirais, pluriannuelle qui a commencé en 2015 avec l'adoption des objectifs de développement durable et qui va continuer dans les mois et les années à venir, notamment dans les processus liés au Forum mondial de l'eau, le prochain se tenant à Brasilia en 2018.
Sur cette question des eaux usées, entre les pays riches et les pays pauvres, comment on dépasse ce clivage-là? Et du coup, qui est concerné directement par la question de l'assainissement, véritablement?
Je pense que les questions liées à l'assainissement sont d'importance capitale pour tous les citoyens du monde, dans tous les pays. Moi, je viens de la Belgique. 40% des eaux usées ne sont pas traitées en Belgique. Ils sont rejetées dans l'environnement naturel, causant des dégâts dramatiques pour l'écologie, mais aussi pour l'environnement dans lequel les gens vivent. Et ça, c'est dans le cœur de l'Europe. Donc, ça veut dire que même dans les pays très avancés, avec, je dirais, des cadres régulatoires très fortement poussés et très bien surveillés, il y a quand même un énorme problème de traiter cette question de l'assainissement. Deuxième chose, c'est que l'assainissement est une chose plus complexe, plus intensif en capital à mettre en œuvre, et ça demande donc une organisation beaucoup plus complexe que d'apporter l'eau. Troisième chose, c'est très facile d'apporter de l'eau, mais une fois que l'eau est usée, il faut l'évacuer de certaines zones, qu'il s'agisse des slums, des bidonvilles, qu'il s'agisse des grandes villes, des mégalopoles. Et donc, ce n'est pas simplement regarder la chose sous le prisme des toilettes. Il faut organiser les traitements ensuite et le rejet d'une manière saine, ou voire même la réutilisation des eaux usées dans les processus économiques et urbains et industriels.
Alors justement, comment est-ce qu'on met en place des mesures qui permettent, vous le dites, le recyclage de la réutilisation des eaux usées, la réduction des eaux usées, la collecte des eaux usées? Comment on s'organise pour appliquer ces politiques-là?
Nous pensons que d'abord, c'est la priorité pour les gouvernements. Donc en fait, c'est les autorités publiques qui doivent saisir ces objectifs qui sont, depuis 2010 aussi, des droits de l'homme. Et depuis 2015, le droit à l'assainissement a été reconnu comme étant un droit à part. Donc ce n'est même plus le droit à l'eau et l'assainissement, c'est le droit à l'eau, point barre, et le droit à l'assainissement. Ce qui veut dire que techniquement, légalement parlant, les gouvernements du monde entier sont tenus par la loi d'implémenter ce qu'on appelle de façon progressive les mesures qui satisfont les droits des hommes et des femmes et des enfants à ces nouveaux, enfin, à ces droits. Pour cela, il faut d'abord que les autorités publiques définissent les cadres d'organisation des services publics liés à l'eau et l'assainissement. Ensuite, identifier les niveaux administratifs, voire territoriaux et collectifs qui peuvent être chargés de la mise en œuvre de la politique générale. Et la troisième étape, c'est de se doter d'un apparatus, je dirais, technique, d'organisations qui sont les opérateurs, et les opérateurs peuvent être publics ou privés, voire même mixtes, hein, pour mettre en œuvre ces politiques. Nous pensons qu'aujourd'hui dans le monde, et les derniers chiffres de l'OMS et du Monitoring Program des Nations Unies le montrent, qu'à peu près 40% des gens n'ont pas une satisfaction de leur droit à l'eau et le droit à l'assainissement. Ce qui veut dire que nous avons énormément d'efforts à faire, et ce n'est pas simplement dans les pays les plus pauvres. Il faut penser aux grandes, je dirais, urbanisations modernes des pays comme le Brésil, comme le Mexique. Il y a des fonds qui sont disponibles, il y a des structures qui existent, mais ce qui manque, c'est d'un côté une gouvernance de l'eau, c'est-à-dire une meilleure organisation de la société pour attaquer ces problèmes qui sont fondamentalement négatifs pour le bien-être, pour le développement économique et pour la santé, et voire même aussi pour l'écologie. C'est ce que le pape a souligné dans son encyclique Laudato Si'. Et donc, il faut cette gouvernance de l'eau, il faut l'appliquer, il faut impliquer les parties prenantes autour de ce grand enjeu de la société. Chacun a son rôle à jouer. Et aujourd'hui, quand on voit que 40% de la planète n'a pas un accès durable à une eau potable, saine, qui satisfait les critères du droit à l'eau, c'est un scandale. Il faut donc mobiliser les énergies afin de pousser les gouvernements à prioriser l'accès à l'eau et l'assainissement dans leur budget public. Ce n'est pas une question de finance. L'argent existe. Il est même présent localement, des fois. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un political will, donc une volonté politique de s'y atteler, de donner à l'eau la visibilité qu'elle mérite dans nos sociétés, et à l'assainissement aussi, bien entendu, parce que les impacts négatifs ne sont pas du tout négligeables, mais de montrer aussi qu'à travers l'eau, on peut créer des sociétés qui sont plus durables, plus inclusives, et finalement, je dirais, un investissement dans l'eau et l'assainissement a des retours économiques, mais surtout aussi écologiques. N'oublions pas que les femmes et les enfants et les jeunes filles souffrent disproportionnellement du manque d'eau et d'assainissement, souvent condamnées à la corvée d'eau, à perdre de l'école. Et donc, ensemble, si nous voulons parler de cette nouvelle éthique de l'eau qui est un peu l'objet du dialogue de ces deux jours-ci, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on parle. Et il faut qu'on se mette d'accord sur des projets communs. Et donc, nous saluons, de notre point de vue comme opérateur privé, mais je pense qu'on parle pour tous les opérateurs publics, nous avons des rôles à jouer, nous avons à démontrer quelles sont les performances qui existent ou qui manquent. Nous devons être ouverts au dialogue et surtout trouver des moyens de faire un grand pas en avant dans les jours qui viennent.
Justement, les opérateurs privés, ils ont quel rôle et quelles actions dans ce cadre-là?
Je dirais, en tant qu'opérateur public ou privé, vous êtes un instrument de mise en œuvre de politiques publiques. C'est des autorités publiques avant tout, donc de décider comment organiser le service public de l'eau et de l'assainissement. Il y a différents modèles qui existent à travers le monde. Il y a des modèles qui permettent l'implication du secteur privé. Il y en a d'autres qui privilégient une gestion, ce qu'on appelle en direct. De notre point de vue, ce qui compte in fine, c'est que les services soient rendus de manière la plus efficace et la plus performante possible. C'est-à-dire que chaque goutte d'eau qui transite dans les tuyaux, qui a le moins de pertes possible, qui a la plus grande satisfaction du client, qui a les meilleurs investissements qui sont faits. Et le fait d'être privé n'est pas du tout un handicap, voire même le contraire. D'ailleurs, la reconnaissance du droit à l'eau en 2010 reconnaît très explicitement que le secteur privé a un énorme rôle à jouer, non pas simplement parce que c'est un garant d'efficacité, mais ça peut aussi aider à rendre des projets plus bankable, donc plus financiables. Nous pensons aussi que ce n'est pas l'aubaine. On n'a pas toutes les questions chez nous. Je pense qu'il y a des très bons opérateurs publics qui font un excellent boulot. Ce qu'on doit faire, c'est rehausser tous nos opérateurs au même niveau pour qu'on ait des instruments qui aident la mise en œuvre de la politique publique.
Cette question d'assainissement, c'est une question d'urgence aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique d'avoir ces objectifs d'assainissement comme ils sont présentés aujourd'hui?
Je pense que ce n'est pas du tout non réalisable. Les derniers calculs de la Banque mondiale, mais aussi, je pense, de l'ONU en elle-même, montre qu'il est possible d'atteindre les objectifs, notamment pour l'assainissement, pour 2030. Cela implique évidemment la mobilisation des capitaux. Ça implique une organisation au niveau des États pour qu'ils se dotent des politiques nationales nécessaires pour justement pouvoir canaliser, si jamais cet argent est priorisé dans les budgets, pour pouvoir le dépenser. Il faut trouver les bons opérateurs, donc c'est-à-dire il y a un problème, non pas seulement des projets qui sont bien faits, mais il y a aussi un énorme problème de capacité. Et donc, je ne parle pas simplement de la gestion financière, mais je parle aussi de la main-d'œuvre basique qui manipule les pompes, les installations. Et donc, ce n'est pas simplement un problème, c'est aussi une opportunité. Et donc, de mon point de vue, je pense qu'on a collectivement un énorme challenge, c'est de trouver, de mobiliser, je dirais, des gens à aller travailler dans le service public, qui soit rendu par la privé ou public, ça ne pose aucun problème. Mais il y a un problème de capacité. Et donc, formation, transfert de connaissances, partage des bonnes pratiques, faire en sorte que le manager de demain ou, le type qui va gérer une installation soit reconnu, ça demande une véritable politique aussi d'éducation. Quand on voit la dynamique sur le terrain en Côte d'Ivoire, en Ouganda, au Brésil même, quand on voit les efforts qui sont faits pour l'éducation et la formation, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc je pense que ce n'est pas un problème d'argent, c'est plutôt un problème de volonté politique et de gouvernance de l'eau.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.